c'était plutôt malin de pas mettre qu'on était expert en séries télé, genre dans les descriptions du podcast.
Bienvenue dans Matage de série 7, deuxième partie, confession d'une bande de sériephiles retardataires. On reprend juste là où on s'était arrêté la semaine dernière, et Léa, Dom et moi faisons le listing de ce qu'on a réussi à regarder cette saison, ce qu'on en a retenu et de nos quelques regrets. On inaugure aussi un segment appelé l'obsession de la semaine, qu'on intitulera exceptionnellement l'obsession de la semaine d'il y a 11 semaines, mais je pense qu'elles ont toujours cours, ou presque. Et pour vous remercier de votre patience, on aura un petit bonus sympa dans les jours qui viennent. En attendant, on est parti. Et là, on va passer à notre dernière partie où du coup, Léa va nous rejoindre officiellement et se rapprocher donc d'un micro, le micro de la cave. Donc là, on va faire un petit tour de table. Donc vu que nous sommes des sériephiles retardataires, hein, tous les trois, je me suis dit qu'on allait faire un truc vachement sympa. On allait.
Déjà, vous êtes des sériephiles parce que moi, quand je vais parler un petit peu de ma saison de série, on va vraiment se demander si je suis sériephile en fait.
Moi, je commence aussi à me poser la question hein, cette année.
Alors, donc, les sériephiles retardataires. Donc, du coup, je vais vous poser une série de questions. Vous allez répondre plus ou moins brièvement. On va commencer par Léa. Question numéro 1, parce qu'on veut faire genre qu'on a quand même regardé des séries. Quelle est la série? Donc, on parle de la saison, j'allais dire 2016-2017, mais non.
Ne parlons pas de malheur. Il n'y a plus de saison en plus, ma pauvre dame, dans les séries.
Depuis septembre dernier?
En gros, 2015-2016. Donc, les nouvelles, mais les anciennes aussi. En gros, quelle est la série dont tu as vu le dernier, enfin, dont tu as terminé la saison, et t'es contente d'avoir terminé la saison parce que ça t'a plu et tu
alors,
veux.
Alors, est-ce voilà. que c'est parce que je suis surprise d'avoir terminé la saison, parce que pour ça, j'ai aussi une réponse qui est quand même The Family, où j'ai réussi à tenir jusqu'au bout.
Attends, The Family, c'est resitue, c'est quoi?
Il y avait Zach Guilford dedans, donc il fallait que je regarde
c'était
jusqu'au bout.
C'était le mec, le gamin kidnappé qui revenait, et on n'était pas sûr si c'était vraiment le fils de la famille, et pendant ce temps-là, la mère, qui était au départ, elle était en train de devenir, ouais, elle faisait sa campagne électorale pour être maire quand le gamin avait été kidnappé, entre-temps, elle était sur le point de devenir sénateur.
Je ne sais même pas de quoi vous parlez.
C'est un truc d'ABC.
C'est une season de ABC.
D'accord.
Mais il y avait Zach Guilford et Alison Peel et... Voilà, mais
c'est ça, t'as bien compris.
Donc j'ai regardé jusqu'au bout et ça a été une grande surprise de regarder jusqu'au bout.
Bon, il y a rien à sauver, on est d'accord.
Ah non, il y a absolument rien à sauver. Même Zach Guilford n'est pas particulièrement bon de. Enfin, il n'est pas particulièrement à l'écran en fait. Donc
non. En fait, t'as regardé jusqu'au bout juste pour être sûr que tu voyais toutes les minutes avec Zach Guilford.
C'est à peu près ça, ouais. Non, sinon, ce que j'ai enfin terminé de regarder, et ça, c'est très récemment, et j'en suis très heureuse, c'était Deutschland 83, qu'on avait tous découvert l'année dernière à Sériemania, et que je ne m'étais pas encore pris le temps de regarder. Donc ça y est, c'est une de mes dernières petites saisons terminées.
Alors moi, je n'ai toujours pas dépassé l'épisode 2, parce que je suis une épouvantable personne, bien que j'ai des épisodes, et je parle allemand, donc j'ai vraiment mais aucune excuse. Moi, j'ai entendu quelques personnes qui disaient que c'était décevant au final.
Mais écoute, moi, j'avais très peur en fait, parce que c'est vrai que ce qu'on avait vu était intéressant, mais j'avais un peu peur que ça devienne un peu trop procédural. Et ça, chaque épisode qui est vraiment. Et ils le font un petit peu jusqu'à l'épisode 4, on va dire, et ensuite, ça, tu vois que vraiment tout a des conséquences. Et donc, ils vont pas forcément là où on s'attend. Il y a des choses qui se passent plutôt que ce qu'on imaginait. Donc moi j'ai trouvé que ça restait quand même assez surprenant et puis ça reste quand même une période de l'histoire qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, donc et puis une série allemande, donc voilà.
Et la fin est satisfaisante?
J'ai trouvé, j'attends la...
Il y a une saison 2?
Il y a une saison 2. D'accord. Qui est prévue.
Ok.
Donc ok, ouais. Donc Deutschland 83, ça vaut le coup de regarder jusqu'au bout, ça donne une autre dimension à la série que par rapport à ce qu'on a vu au début quoi.
Pour moi ouais. Moi, je le recommande très, très chaudement. Ouais.
Ok, super. Une série que tu as réussi à terminer, Dom? Ex-Girlfriend et Superstore, on était au courant. Une autre?
J'en aurais vu, j'aurais fait une blague sur une série anglaise avec 3 épisodes dans l'année. Mais j'ai vu jusqu'au bout Fargo saison 2.
Moi, j'ai honte. Surtout qu'on voulait faire un podcast qu'on va peut-être faire un jour.
Peut-être.
Avec Nicolas Robert sur Fargo.
Après la saison 3, peut-être.
Peut-être. Oh mon Dieu, faut que je rappelle. Ouais, mais c'est le genre de série, il vaut mieux en parler dans fin de saison, je pense. Il se passe tellement de choses, enfin, c'est tellement...
C'est hyper dense, il y a... Ouais, il y a vraiment de quoi faire un podcast entier pour en parler. Je vais pas non plus m'épancher trop longtemps. Elle est pas exemple de défaut. C'est pas la perfection que certains ont pu trouver dans cette série-là en disant que la saison 2 surpassait la saison 1. Niveau virtuosité, oui. Parce que techniquement, esthétiquement, c'est une baffe. C'est juste merveilleux, quoi. C'est un enchevêtrement d'images. Ça utilise le split screen comme j'avais pu vu utiliser le split screen. Mais il manque un truc dans cette saison que la saison 1 avait. Au-delà du fait, au-delà de la comédienne, donc Alison Tolman, qui était le point d'ancrage émotionnel de la série dans la saison 1. Il n'y a pas de point d'ancrage émotionnel réel dans la saison 2.
Je pense que c'est pour ça que j'ai pas dépassé l'épisode 3 pour l'instant.
Mais je comprends, ouais, c'est très diffus. Ce qui n'empêche pas qu'on est régulièrement touché par quelqu'un. On est touché par... c'est Sanderson, son nom de famille. Le nom du père d'Alison Tolman dans la saison 1 que tu vois, enfin quel protagoniste.
Ah, c'est Patrick Wilson.
Patrick Wilson, ouais.
Il y a Léa qui fait je sais pas.
T'es touché par lui à certains moments de la saison parce que sa femme est malade et qui s'en sortent pas. T'es touché par elle forcément parce qu'elle est merveilleuse. C'était celle qui jouait
l'actrice est génialissime. C'est la mère dans
How I Met Your Mother.
Christina Christina Perry, c'est une chanteuse.
On va retrouver son nom un jour. Mais elle est super. T'es touché aussi par Nick Offerman, qui a un rôle aussi dans la série. C'est le rôle inverse de Ron Swanson, étant donné qu'il n'a pas de moustache, mais il a un collier de barbe. Et t'es touché aussi par Ted Danson, et qui joue le père de Christine Milioti.
Christine Milioti, absolument. Parce qu'elle était avec Ben Feldman, notre ami Jonah, dans A to Z, qui était une série que j'aurais voulu être géniale, mais qui ne l'était pas, mais c'est pas grave.
Et du coup, lui, donc, Ted Danson joue son père, il est hyper touchant aussi par moment. Donc, c'est pas non plus, d'un seul coup, en saison 2, il n'y a plus du tout d'attachement émotionnel, on n'a rien à faire des personnages. Non, mais c'est beaucoup plus diffus. Mm-hmm. Et la virtuosité, parfois, prend le pas sur le reste. Par contre, si vous voulez voir de l'interprétation de très très haut niveau, de comédiens de très très haut niveau, que vous avez déjà vu dans 1000 séries, mais qui sont toujours à la hauteur, il y a des trucs là-dedans. Kirsten Dunst, par exemple, elle est pas venue faire une série pour faire une série, quoi.
Ouais, Kirsten Dunst, moi, ce que j'en ai vu, c'était incroyable.
Elle est ébouriffante dedans, quoi. Mais je veux dire, en face, c'est du lourd aussi. Hein. Donc l'ancien Friday Night Lights, c'est de Breaking Bad aussi.
Jesse Plemons.
il est clairement à la hauteur. Il forme un couple incroyable, crédible, touchant et en même temps assez agaçant. Enfin, c'est. Il y a aussi le gars qui jouait dans A Touch of Evil. Dans Burn Notice aussi, j'ai pu me souvenir de son nom.
Je n'ai pas regardé Burn Notice et je n'ai pas regardé Touch of Evil.
Qui est une tronche que tu vois régulièrement dans les séries et qui paraît être un acteur de seconde zone. Là, il prouve dans cette série-là que c'est loin d'être un acteur de seconde zone. Non, esthétiquement, c'est incroyable au niveau de l'interprétation.
Il joue qui dans la saison 2?
Il joue un des enfants des mafieux, en fait, un des trois.
Oui, d'accord.
Mais même eux, hein, en gros, leurs trames sont pas très intéressantes, mais les personnages le sont. Après, voilà, c'est très diffus parce que ça raconte plein de choses. Ça raconte les histoires d'une famille de mafieux qui sont en train de perdre pied parce que le patriarche vient de crever. Enfin, ça raconte une enquête suite à un meurtre dans un diner. Comment tout s'imbrique, les luttes de pouvoir entre les différentes mafias de l'endroit. Donc du coup, des fois, t'es un peu paumé au niveau narratif. C'est un peu compliqué à suivre. C'est clairement pas une série que tu regardes un tout petit peu en dilettante. Faut être très attentif.
Et par contre, moi, ce que j'en ai vu des trois épisodes, c'est que c'est vraiment un moment de télévision fort. C'est-à-dire que chaque épisode, t'as l'impression de, tu rentres dans un univers et, mais ce qui était le vrai dans la saison 1, mais qui est renforcé par le fait que ça se passe dans les années 70, je trouve.
Ouais, complètement.
Du coup, il y a un cachet esthétique et d'ambiance, qui est supplémentaire.
Non, c'est, après,
donc celle-là
voilà.
aussi, tu recommandes chaudement de la regarder jusqu'au bout.
Disons que c'est pour moi qualitativement au niveau de la saison 1 du cœur en moins.
Ouais.
Du cœur en moins. Ce que ça gagne en esthétique et en virtuosité, ça perd un peu en cœur. Et c'est le seul bémol que je mettrais, ça reste quelque chose de voilà, y a pas de secret hein, c'est une des rares séries cette année que j'ai dont j'ai terminé la saison par manque de temps, j'ai pas pu voir les autres, celle-là je l'ai trouvée quoi. Donc
Oui. Non voilà. Mais oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait commencé par cette catégorie-là, parce que bon, bien que certaines personnes trouvent du temps pour regarder The Family, mais ça en dit aussi long sur les attentes.
Bah, dans Fargo saison 2, s'il y avait eu Zach Gifford, t'aurais regardé.
J'aurais regardé aussi.
Bah voilà.
Et moi, c'est...
Moi, ça manquait d'Alison Pill par contre.
Moi, ce que j'ai regardé jusqu'au bout, c'était Limitless, donc qui a été annulé. et que j'allais jusqu'au bout, et autant je suis, alors franchement le dernier épisode, il y a plein de trucs de fin de saison qui sont intelligents, où ils changent les enjeux, ils changent les règles du jeu pour la fin et tout ça, mais en même temps il y a vraiment un truc, il y a je trouve que le dernier épisode est un peu trop dernier épisode quoi, ça fait un peu trop cliché dernier épisode de solution finale, il y a un peu côté bon, on va tout remettre en cause et on va tout rechanger et il a plus aucun pouvoir et il va enfin voilà.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps je crois que finalement c'est ce qu'on disait déjà la dernière fois, c'est que cette série n'a jamais prétendu à un niveau narratif faire quelque chose d'intelligent et faire quelque chose de différent quoi. Même si
ça c'est ton diagnostic. J'entends mais c'est pour moi c'est pas exactement ça que je
Non mais c'est ils sont pas novateurs au niveau de dans le fond du récit, ils sont pas totalement novateurs. Et donc ils vont pas se cacher à essayer de faire de nous jeter des paillettes avec des retournements de situation. Non, ils font quelque chose qui fonctionne depuis des années, mais par contre ils apportent une touche d'innovation avec un niveau visuel.
Pas seulement visuel d'ailleurs.
Pas seulement visuel.
Parce que dans l'organisation de la narration, c'est-à-dire que c'est effectivement sur la forme de la narration. Oui. Mais moi, ce que j'ai, en fait, il y a des moments incroyables. Il y a un moment incroyable où il parle de crimes horribles et du coup, parce qu'il ne peut pas mettre de nom dessus, il parle de, il dit bon, alors à partir de maintenant, parce que si j'ai réfléchi trop, ça va me rendre fou. Je vais faire comme si c'est un clown, c'est ça. Et alors qu'en fait, on parle d'abus sexuels sur des enfants, il me semble. Il y a un truc comme ça, ouais. Et j'ai plus ça en tête, mais tout l'épisode du coup. Joue sur la mascarade de quand il en parle, c'est dans tout d'un coup dans un univers genre on dirait l'île aux enfants quoi.
D'accord.
Et alors que clairement c'est justement pour
des papillons et des arcs-en-ciel.
Et en gros parce que il dit si j'en parle comme c'est vraiment c'est juste insoutenable en fait.
D'accord.
Mais du coup ça fait presque un commentaire encore plus fort sur le caractère insoutenable et inacceptable de ce genre de crime. Il y a plein de trucs.
Et accessoirement aussi sur le reste des séries qui en font leur
oui, absolument.
Qui les montrent en permanence.
Oui, qui font du voyeurisme absolu sur ce genre de trucs.
Criminal Minds par exemple.
Par exemple Criminal Minds, mais CSI également.
Et puis SVU.
C'est ça, à peu près toutes les séries.
Special Victims Unit.
Donc,
oui, il y a ça.
C'est quand même aussi une analyse intéressante de l'état télévisuel à l'heure actuelle.
Et en plus de ça, il y a d'autres épisodes. Il y a un épisode notamment vers la fin où c'est elle qui prend les E.T. où en gros, tout d'un coup, c'est elle qui est la narratrice et c'est elle qui a les capacités que lui, il a d'habitude. Et c'est complètement justifié par rapport à un truc et c'est même vraiment intelligent le fait qu'elle réagisse comme ça à ce moment-là et qu'elle dise « Ok ». Mais dans ce cas-là, moi, je veux trouver la solution à mon problème. Donc du coup, je veux pas spoiler plus que ça parce que là aussi, je recommande aux gens de regarder. Je trouve que la toute fin, il y a un peu un côté baguette magique dans les dernières minutes où t'es là, really? Et là, pour le coup, je trouve ça un peu regrettable. Et du coup, une fois de plus, quand il y a un truc baguette magique à la fin, je me dis, c'est un rêve. En fait, c'est pas vrai, c'est un rêve. Et en fait, non. Ah d'accord. J'étais persuadée qu'à la fin, c'était un truc. Bon, mais malgré tout, il est excellent, ce mec. Il y a un truc dans cette série, il y a plein de personnages secondaires, de trucs secondaires. Il s'amuse avec énormément de choses. Ça vaut. Enfin, moi, j'ai commencé à la revoir à un moment où je cherchais un truc pour m'endormir et je voulais pas regarder un truc nouveau, j'avais plus le temps et tout. Et en fait, elle survit, voire elle est magnifiée par la quand on le revoit, parce qu'on se rend compte que dès le départ il y avait des éléments qui étaient là, que c'est vachement réfléchi, c'est très très maîtrisé en fait, beaucoup plus maîtrisé que la plupart des séries grandes chaînes, et il se casse le cul, j'ai rien qu'à dire, et c'est très divertissant.
Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais t'as eu pas mal de séries cette année qui renouaient avec le style série d'action.
Oui.
Donc je pense à Minority Report par exemple, mais
oui, il y a eu ça, mais il y a aussi Blindspot.
Blindspot et aussi la série avec
Quantico.
On en parlera tout à l'heure. Sur les joueurs avec Wesley Snipes.
Ah oui, c'est le truc.
Blindspot et Quantico étaient renouvelés pour une saison 2. Blindspot non.
Blindspot, ouais. Oui, je pense.
Ouais. Quantico, je pense aussi.
Quantico aussi.
Ouais, c'est tellement con, ça doit marcher.
Bah oui, dans le. Alors, pas auto promo, mais promo. Les showrunners ont fait une vidéo pour les Upfronts 2016. Et le moment où de Quantico, c'est Shonda Rhimes, c'est pas Shonda Rhimes, ils disent. Oh, en cas de doute, et ils le mettent dans la pile des renouvelés automatiquement. Et je trouve que la blague sur ils l'ont renouvelé par erreur parce que ça ressemblait à du Shonda Rhimes.
C'est du Shonda Dry, c'est comme le Canada Dry.
Ça, j'allais dire Shonda Light parce que j'adore le Canada Dry, donc Shonda Zéro.
Mais tout ça pour dire, je crois c'est une des rares qui a réussi à faire une saison complète. S'il y a peut-être pas de secret, quoi, parce que la plupart sont passés à Minority Report. Ça fait 3 épisodes, même pas, je crois.
Ouais, mais Limitless a pas été renouvelé, quoi.
Ouais.
Et donc voilà, donc Limitless et l'autre que j'ai terminé, parce que la plupart des autres vous verrez, c'est pas des séries que j'aime pas, mais j'ai tout d'un coup beaucoup beaucoup travaillé ces derniers mois, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast, mais ça m'a fait un choc, et du coup voilà, en plus j'ai regardé tout Dawson, alors bonjour au niveau du temps. J'ai aussi revu tout Life, mais bon, ça c'était juste pour le plaisir. Et du coup ben l'autre que j'ai terminé, c'est Elementary, ce qui en dit long aussi sur la capacité, la facilité aussi, parce que quelque part les séries plus qui me demandent plus d'attention, ben elles ont été plus mises à l'écart. Mmh. Et Elementary et Limitless avaient cette capacité d'être facile à regarder, en même temps divertissante, intelligente, et voilà. Et il y a plein de trucs. Moi, je continue à aimer énormément cette série parce que, en fait, le traitement de la vie, et du partenariat et de la vie commune des deux protagonistes est sans aucune ambiguïté romantico-sexuelle. Et super bien. Et il y a un truc, logiquement, alors je spoil sur la fin de la saison 4, un tout petit élément dans l'histoire, ça vous dérange pas que je vous spoil?
Non.
Bah, un des trucs de la fin, c'est que le père de Sherlock Holmes est très présent dans cette saison. Et, traité comme qu'un ennemi plus qu'autre chose, mais pas un ennemi clair et net, c'est plus compliqué que ça, et Charlotte dit juste dès le départ, ce type est un salaud, donc on ne lui fait pas confiance quoi qu'il arrive. Et
c'est un père dans une série américaine, donc forcément une enflure.
Ouais, c'est pas faux.
J'ai vu Lost. Hein.
Le type n'est jamais consolé. Oui, bah à la fin, c'est Shepard. N'oublie pas, hein, c'est le papa Shepard. C'est celui qui les emmène.
C'est ça.
C'est le guide spirituel, ouais. Anyway, et donc là. Non, mais en plus, il est joué par John Noble. Ouais. Il est joué par le mec de Fringe.
Dans Elementary?
Ouais.
D'accord.
Donc c'est pas n'importe qui. Et à la fin, en gros, il redit à Sherlock, de toute façon, tous les gens qui s'approchent de toi meurent, tous les gens qui s'approchent de toi, sont dans la merde. Donc en fait, quelque part, si tu aimes quelqu'un, tu devrais l'éloigner de toi. Truc classique. Mm-hmm. Et donc dans la fin, en plus, il leur laisse un appartement en plus à New York, un endroit où il était. Et Sherlock va dans l'appartement avec Watson à la fin. Je crois que c'est une des dernières scènes, et elle lui dit, en gros, tu devrais t'installer ici, parce qu'en fait, donc ils vivent ensemble depuis le départ. À un moment, au début de la saison 3, elle est partie en disant je veux continuer à travailler avec toi, mais je veux ménager. Enfin, au début d'ailleurs, elle s'était barrée, mais elle dit ok, même si on travaille ensemble, moi je veux avoir mon autonomie. Et en fait, au milieu de saison, il lui arrivait des trucs dans sa vie. À un moment, elle a dit en fait, c'est idiot d'essayer d'avoir une vie normale parce que c'est plus qui je suis et je préfère vivre avec toi. Et du coup, c'est complètement assumé qu'ils vivent ensemble. Et d'ailleurs, tu vois, enfin moi, il y a un truc très fort sur le fait que c'est une communauté de vie complètement assumée, entérinée par tout le monde. Elle a fait en sorte d'avoir un bureau en dessous où elle a une porte une porte indépendante pour avoir une capacité de recevoir des clients en dehors de lui, mais sinon, tu vois, le fait que les flics leur disent « Ah, t'es pas rentré chez toi, t'as pas encore vu WhatsApp », enfin, tu vois, qu'il y a une espèce de truc, ils vivent ensemble, ce n'est pas un couple, mais ils vivent ensemble et ils partagent leur lieu de vie et leur repas, et enfin, c'est, je sais pas, c'est quelque chose que je trouve incroyablement touchant, bon, c'est aussi parce que moi, j'ai tendance à vivre comme ça, mais c'est tellement rare de voir des gens qui vivent vraiment ensemble, à part justement dans Baby Daddy, c'est une autre raison pour laquelle j'adore cette série.
Oui, et même dans Baby Daddy, en fait, tu vois que c'est quand même des post-ado ou des, enfin, c'est
oui, mais ils élèvent un enfant. Mais ils élèvent un enfant.
Enfin, mais justement, là, c'est des adolescents où ils, enfin,
des jeunes, adolescents,
où ils ont besoin de cette communauté pour évoluer, alors que, justement, chez les,
dans Elementary, c'est des adultes.
Avec des adultes.
Ouais. Et donc, c'est pas de la même famille, quoi.
L'adulte a quand même besoin d'une communauté pour pouvoir évoluer et que, cette communauté, c'est pas forcément la famille, c'est pas forcément le couple, c'est pas forcément les enfants. Et qu'on peut recréer des relations hors normes.
Des familles
hors normes.
Mais qui
sont tout aussi fonctionnelles.
Ouais. Et en fait, du coup, donc, ils arrivent dans l'appartement et lui dit, voilà, je pense que tu devrais vivre ici, t'éloigner de moi, en gros, et vivre dans cet appartement, tu peux l'avoir, machin, mon père a raison, je fous la merde de tout le monde, et en gros, Watson prend 15 secondes de réflexion, elle fait, oui, ou en fait, il dit des conneries, et on s'en fout. Il dit, t'as raison, on peut le vendre et se faire du fric. Ça termine comme ça. Et j'ai trouvé ce truc de, ouais, non, en fait, on va pas écouter cet abruti qui n'a jamais aimé personne de sa vie, ou presque jamais. Et du coup, non. Enfin, voilà, on assume, on vit ensemble. Et c'est, je sais pas, je trouve ça, et le fait que ce soit pas juste, déjà, ça me fait plaisir que ce soit toujours là, mais c'est, il y a des conséquences psychologiques et narratives de cet état de vie. Et ça fait partie de leur différence, et en même temps, c'est partie de leur fonctionnement, c'est pour ça qu'ils arrivent à réfléchir ensemble, parce que lui, il dort pas beaucoup. Elle, elle dort plus que lui, mais du coup, quand elle se réveille le matin, il a réfléchi toute la nuit, et il a foutu le bordel dans le salon. Il y a des épisodes où elle rentre. Et ce que j'aime, c'est qu'elle rentre, ou elle descend de sa chambre, et à chaque fois, elle regarde, elle fait, ok, quelle expérience étrange es-tu en train de faire?
Mais tu vois, ce qui est très drôle aussi, c'est que tu vois l'évolution depuis qu'ils ont commencé à habiter ensemble.
Elle a énormément changé aussi, et lui aussi.
Elle a énormément changé, et à prendre en compte d'un coup qu'ils sont en colocation, enfin, en tout cas en cohabitation, et que il est plus, lui, le petit enfant égoïste qui est chez lui, c'est vrai, qui peut faire ce qu'il a envie de faire et laisser traîner sa vaisselle et ne pas faire les courses, etc. Il est d'un coup en communauté.
Ouais,
et
c'est ça.
Il doit grandir et elle doit aussi se libérer d'un certain nombre
de normes et de trucs, d'habitudes.
Voilà. Donc voilà, tu vois, mais ouais, ça n'est jamais dit clairement. C'est vraiment tout en nuance où tu aperçois depuis 4 saisons que
ça évolue lentement. Mais en fait, c'est ça que j'adore dans cette série, c'est que c'est une série qui, tu sens que ça vaut le coup de l'avoir regardé depuis le début, tu vois, il se passe des vrais trucs. Et surtout, c'est, vu que c'est des gens hautement intelligents, ils sont pas toujours en mesure de gérer bien leurs émotions, mais ils en ont conscience et ils en parlent en conséquence. Tu vois, ils se connaissent, et donc de temps en temps, il va dire, vu mon comportement habituel, faut que je fasse attention à ça, du coup, je me pose cette question et cette question et cette question. Enfin, tu vois, ils sont des adultes, quoi, c'est incroyable. Loin d'être parfait, mais donc voilà. Donc Elementary, du coup, j'ai moins de mal à la regarder, parce qu'il y a moins le côté où tu tapes la tête avec le facepalm, et tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils peuvent pas apprendre. Et donc voilà, donc ça fait probablement partie des raisons, parce que ça, quand on regarde trop de télé, il y a le moment où on est juste saoulé. Par les trucs classiques, voilà. Bon, donc la série maintenant, donc tu peux nous donner ta réponse standard, Léa. La série que tu veux terminer et que tu vas terminer, c'est juste où tu trouves.
En même temps, je te dis ça, mais j'ai toujours un refus de regarder la fin parce que je refuse que cette série soit terminée.
Donc si un jour vous croisez Léa dans la vie, dans la rue, ne lui dis racontez pas la fin.
Mais je fais des progrès, j'en suis à l'épisode 7 de la dernière saison.
Ah oui, t'as plus que 6 épisodes, c'est ça?
Chut.
D'accord, ok. Donc la série de cette année que t'es, qui est en cours ou de la saison actuelle et que tu vas finir par regarder?
J'ai pas encore terminé The Walking Dead. Mais après... Oui, mais j'aime bien.
Non, c'était, il faisait le zombie.
Ah, tu faisais le zombie. Après, au-delà de ça... Bah, je t'avoue que Elementary, moi, j'ai laissé tomber en fin d'année où je pensais le reprendre et où finalement j'aurais pas le temps. C'est vrai que j'ai fait un tri très très drastique dans mes séries cette année. Donc je suis à peu près à jour sur les séries que je voulais voir cette année. Non, il y a O.J. Simpson.
Ah.
Qui, où j'en ai vraiment entendu tellement de bien que je me dis, si j'ai le temps, je vais peut-être...
Merci, ça aussi, je rajoute dans ma liste des trucs que je veux vraiment finir. Ok, ouais. Ok. Toi, Dom, les trucs que tu veux finir?
Friday Night Lights. Non, ça, j'ai pas fini.
C'est vrai?
Oui.
Je le regarde pas avec autant de...
Non, non, mais ok. Non, je comprends.
Ils ont très valable de ne pas terminer Friday Night Lights.
Non, mais à force d'en parler, il y a tellement de trucs. Je crois que je vais pas faire dans le... J'ai pas donné de détails, j'ai juste donné des titres. Je pense à Rick and Morty, je pense à Togetherness, je pense à Last Week Tonight. Eh oui, c'est pas de la fiction, mais je suis tellement en retard que je suis tellement en retard sur l'actualité que limite ce qu'il racontait il y a un an, ça se trouve, ça me fera écho en pensant que c'est toujours d'actualité. Mais aussi Manhattan, dont j'avais beaucoup aimé la saison 1. Mais il y a plein de trucs. J'ai pas fini non plus You're the Worst. J'ai envie Man Seeking Woman pour des raisons totalement différentes. Person of Interest. Enfin. Plein de séries où justement je me cachais un petit peu les yeux quand on en parlait, surtout Person of Interest vu que c'était la dernière saison, pour éviter les spoilers. Et mais tout ça c'est des séries, oui, enfin en gros des séries que j'ai envie de terminer vraiment, où j'ai vraiment envie de me mettre devant pour les voir et où je ne trouve pas le temps. Il y en a tellement, je pourrais prendre une demi-heure et il y a pas trop le temps. Mais
je continue à dire, tu as raison de ne pas regarder Lucifer. De ne pas prendre du temps précieux.
C'est un peu le problème, ouais.
Alors moi.
Et pourtant, j'ai regardé l'intégralité de la première saison de Scream Queens, hein. Hein, alors que j'aurais pu regarder, je sais pas, autre chose.
Pour notre divertissement à tous. Ne l'oublions pas. Alors moi, bah, bien sûr, celle que je veux terminer en priorité, c'est The Good Wife.
Mais... Bah voilà, The Good Wife aussi, pareil.
Ah où j'ai 9 épisodes à voir, mais bon, ça c'est la série, la seule série où Marine doit m'attendre et donc moi aussi je l'attends et donc on va la regarder ensemble cet été. Marine a décidé de commencer il y a quelques semaines Person of Interest. Du coup, elle m'attend pour regarder la saison 5, du coup, parce que du coup, j'ai revu, oui, ça c'est aussi, j'ai revu tout ça aussi ces dernières semaines. J'ai revu 5 saisons de Psych pour un futur article que vous pourrez retrouver dans Soap bientôt, je l'espère. Donc du coup, en gros, The Good Wife, Person of Interest, c'est le truc que je regarde avec Marine. Je suis coincée en février sur toutes les séries DC. Mais que moi, contrairement à d'autres gens, à part The Flash, bon, Legend of Tomorrow, c'est un peu naze aussi. Mais moi, j'aime beaucoup Supergirl et je continue à adorer Arrow à plein de niveaux. Alors, j'ai très très peur toujours de, c'est toujours le problème dans ce, quand j'arrive à ce type de série, à ce stade-là, c'est-à-dire saison 4, où je m'inquiète tout le temps de où ils vont aller, ce qu'ils vont faire. J'avais notamment très peur de ce qui se passait à la période de Noël. Et finalement, en l'ayant vu, ça m'a beaucoup plu. Mais vu que tout d'un coup, c'est 4 séries que j'essaie de les regarder dans l'ordre, du coup, c'est, enfin, là, j'ai 40 épisodes ou de, j'exagère, mais bon, 25 épisodes à regarder. Donc je voudrais terminer ça. Et ça, c'est le truc que j'ai vraiment, vraiment envie de terminer. Mais après, bah, O.J. Simpson, The Real O'Neills, les trois derniers.
American Crime, la saison 2 aussi. J'ai commencé le premier épisode. J'ai pas vu la saison 1, mais la saison 2 a l'air démente. Et,
moi aussi, je voulais la regarder.
Voilà, ça fait partie aussi de ceux que j'aimerais terminer, mais déjà de l'année dernière. Hein, bah, j'avais commencé la saison 1.
Mais du coup, je vais pas commencer la saison 1 parce que ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais la deuxième, ouais. Enfin, de ce que j'en ai vu, c'est. Enfin bref.
Bon alors maintenant le moment jubilatoire. Les séries que je devrais arrêter, elles sont en cours, elles sont encore dans mon planning à terminer, mais en fait, je devrais juste laisser tomber.
Eh ben écoute, assez surprenamment, The Family étant terminée, et étant donné que j'ai vraiment fait le tri cette année, que quand une série quand je me faisais chier plus de 3 épisodes, je la virais. Ouais, ça fait vachement bien,
c'est beau, c'est beau.
Tu te rends compte qu'au final ça te manque pas.
Non, mais je comprends tout à fait.
Non, j'ai encore Arrow, moi, ouais. où je me pose encore la question, et où c'est juste que j'étais pas partie en étant une grande fan de Arrow, et que j'ai trouvé qu'au fur et à mesure de la saison 1 ça s'était vachement amélioré, donc je lui laisse encore le bénéfice du doute. Mais
t'en es où, t'en es à la saison 4?
J'ai terminé.
Ah, donc tu l'as terminé, celle-là.
Non, je suis à jour, mais...
tu vois, elle en est terminée plus que nous, hein.
Je suis à jour. Non, mais en même temps, j'ai quasiment viré les 3/4 de ce que je regardais. Donc, je peux me permettre d'être à jour maintenant. Par contre, voilà, la saison prochaine, si dans les 5 premiers épisodes, il n'y a pas un truc vraiment qui se passe, je pense que ça va
jarter.
Ouais.
Adam.
Je triche un peu parce que je pense que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de nouvel épisode. Je pense que ça veut dire que je l'ai arrêté. Quantico.
T'en étais resté à quel épisode ?
8e ou 9e. Je sais plus trop parce qu'en fait, je suis passé par plusieurs phases dans Quantico. Il y a eu la phase des 2-3 premiers épisodes. Je me suis dit, oh, c'est un peu con. C'est un peu. Attention à la phrase, hein. 24 en pas réaliste.
Tout à fait ça.
C'est ça. Où je me disais. Donc c'est, voilà, c'est du presque Shonda Rhimes. C'est quelqu'un qui se dit, ah, Shonda Rhimes, elle fait des trucs où il se passe à peu près 15 000 choses, même pas 5 minutes, on va faire pareil. avec des personnages ambivalents, ils ont tous un secret.
Et de couleurs et de religions différentes.
Ça, c'est cool, mais.
Mais c'est aussi. C'est,
ça. J'aimerais juste voir ça dans des bonnes séries aussi. il y en a un. Il y en a. Crazy Ex-Girlfriend et les Philippins, c'est quand même pas mal. Mais les 3 premiers épisodes, je trouvais ça con mais fun. Ensuite, les 2 suivants, je trouvais ça con. Après, je trouvais que j'arrivais pas trop à battre mes records au jeu de mon téléphone sur les épisodes 5 et 6. Et au 7 et au 8, je me rendais compte que je faisais autre chose et que je ne mettais pas en pause les épisodes.
En fait, t'as eu le même. Je crois qu'on a eu tous eu à peu près le même schéma avec Quantico, non ?
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bien, ouais. Mais il y en a qui sont encore fans et qui adorent et qui aiment bien ce côté Shonda du pauvre. C'est l'actrice principale est très très bien pour ce qu'on lui demande de faire. C'est pas faux. Il y a des bons comédiens globalement, c'est pas trop mal joué. Je mets des bémols quand même. Mais il y a aucune tenue au niveau des personnalités, c'est hyper changeant pour faire du twist. Moi au bout d'un moment les retournements de situation à 2 balles, il y a un manque de maîtrise flagrant entre les flash forward et le passé, ça tient pas du tout la route, ça veut être 24, ça veut être Damages, ça veut être How to Get Away with Murder, ça veut être tellement de trucs et ça arrive pas à être sa propre identité. C'est vraiment Shonda Rhimes, ça cartonne, on va faire un truc comme Shonda Rhimes. De toute façon, les gens, ils veulent voir que des trucs de Shonda Rhimes, donc, même si c'est un truc qui ressemble vaguement, bon, on va le faire. Et c'est clairement ça, quoi. Je trouvais ça un peu fun et con au départ, et limite pas désagréable à suivre. Et puis au final, non, c'est pas agréable à suivre du tout. C'est crétin, c'est mal foutu, c'est pas crédible. Du coup, ce qui leur arrive, je m'en fous, quoi.
C'est un peu ça le problème, moi, c'est pas vrai.
Complètement.
Alors moi, ce serait. En fait, faudrait juste. Je pense pas que c'est la peine d'insister sur The Catch. De Shonda Rhimes, parce que en fait c'est juste que j'ai regardé 3-4 épisodes et en fait il y avait à chaque fois un truc qui me surprenait et tout, et donc j'ai pas le temps. Et l'autre où je me dis un peu ça aussi, c'est Blind Spot, parce que même s'il y a des trucs que j'aime, en fait mon problème c'est que j'adore c'est Jessie Alexander qu'elle s'appelle, je l'adore depuis longtemps, en fait chaque fois qu'elle est dans une série elle m'a beaucoup marquée, sauf que dans ce rôle là elle, she's kind of a whiny bitch. Tu vois, elle geint beaucoup. C'est la façon
ça
dont.
Peut déstabiliser.
C'est la façon dont elle regarde toujours avec ses grands yeux perdus et sa tête avec une vague grimace. En fait, ça me tape sur le site. En fait, quand je pense à Blindspot, je ne pense qu'à ça.
C'est une biche.
Alors qu'il y a des trucs biche. Tellement bien, il y avait tellement de. Tu vois, il y a la fille de la Whedon Family que j'adore.
Après le mid-season, moi. J'ai peut-être regardé un ou deux épisodes de plus.
Moi aussi, je suis pas allée très loin non plus. Hein. Et du coup, ça me fait penser que l'autre série que j'ai failli mettre dans cette catégorie, mais que dans la série que je vais regarder jusqu'au bout, c'est Agent of Shield. Parce que comme d'habitude, je me fais toujours un peu chier. Sauf qu'il y a un épisode, je crois que c'est l'épisode 15, qui était génial. Et là, tu fais. Et ça m'a un peu fait ça avec Blind Spot, avec un des épisodes qui est concentré sur la fille de l'équipe, la latino de l'équipe qui se retrouve à être undercover dans un truc de trafic de femmes. et à se faire enlever du coup parce que et donc voilà, donc ça c'est un épisode de Blindspot où je me suis dit ah ah, mais bon voilà, j'aurais peut-être juste abandonné, laisser tomber. Comme d'habitude, je me dis bon, je verrai au prochain épisode, mais j'ai jamais le courage de regarder un épisode. Du coup, ça reste sur ma liste pendant des mois et des mois et des mois. Donc, mais bon, voilà, je pense que Blindspot, à mon avis, en tout cas, je pense pas que je regarderai la saison suivante. À part si tout d'un coup, il se passe, je sais pas, une crise. Mais je prends en fait.
Si Joss Whedon prend les rênes de.
en fait, je préfère.
C'est hautement improbable.
Je crois que je préfère revoir des bonnes séries d'avant. Qui mérite d'être vu et
ou
qui
alors, ou alors voir autre chose que des trucs anglais anglais et américains, ce qu'on a
ouais, rarement l'occasion de faire voilà. Et plutôt que ouais, c'est clair. Alors dernière question, la série que tu te félicites d'avoir abandonnée, mais genre ou les séries que tu te félicites d'avoir abandonnées, genre oh qu'est-ce que je suis contente de m'en être débarrassée, genre tous les matins tu te réveilles tu dis ah oh, bah au moins j'ai plus à regarder cette série.
Alors le premier qui me vient à l'esprit c'est Scandale. Parce que.
Putain, Shonda, elle prend cher. Hein.
Ouais.
Wow.
Mais en même temps.
J'adore Shonda, ça veut pas dire que je suis obligée d'aimer ces séries.
Je continue à regarder Grey's Anatomy parce que j'ai déjà tellement arrêté et repris et arrêté et que, soyons clairs, je vais regarder jusqu'au bout, il faut que j'arrête de me voiler la face. Donc, même si je regarde.
On va arrêter
pas
de se mentir.
Mais,
putain, mais moi, tu sais que c'est horrible le nombre de fois où quelqu'un me parle de Grey's Anatomy. Moi, je suis à l'épisode 7 de la saison 8, donc a priori, je suis censée avoir arrêté. Et les gens m'en reparlent et je fais. Ah ouais, et l'autre jour j'ai mis un épisode par erreur parce que je les télécharge pour les avoir. Je télécharge pour les avoir parce qu'en fait je trouve que plus ça va, plus c'est difficile de trouver des séries qui ne sont pas actuellement. De télécharger ces trucs qui ne sont pas actuellement en diffusion. Mmh. Et donc du coup maintenant je collectionne et en plus je connais plein de gens qui me donnent qui veulent les épisodes et je l'ai mis par erreur sur l'ordinateur de Marine. Elle m'a dit pourquoi as-tu fait ça ? Je suis retombée dedans.
Mais voilà, donc moi c'est vrai que là, Grey's Anatomy, j'ai arrêté de me voiler la face. Il s'avère que Scandale, j'ai toujours détesté le personnage principal. En fait, j'ai toujours détesté après tous les personnages qui sont dedans. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi je continue à regarder, si ce n'est que c'était Shonda Rhimes et que ça... C'était fait à base de cocaïne, je pense. Donc, j'avais besoin de ton. Mais non, mais sinon, moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai arrêté les trois quarts des séries et je suis contente parce que finalement, j'ai gardé que celles que j'ai vraiment envie de regarder, que ça me laisse le temps de regarder plus de séries anglaises, plus de séries scandinaves, plus de séries asiatiques, etc. Donc
c'est quoi les séries asiatiques que tu regardes?
Alors que je regarde pas pour l'instant, je les ai pas, mais je suis en train de peut-être réussir à avoir Half Worlds qu'on avait
vu.
Donc c'est pas encore sûr. Mais donc voilà, et puis de se rendre compte qu'il y a des choses très bien qui se font en Europe.
Marseille, ça y est,
j'ai vu les deux premiers, je vais regarder le reste des ce soir. On est bien d'accord.
Non, mais donc Scandale, ouais, d'accord. Toi, Dom?
Bah, moi, ça m'a fait me repencher sur une période de ma vie où je me suis dit qu'il y avait des séries que je gardais de côté en me disant je vais les finir. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais non! Je ne finirai jamais The Walking Dead. Je ne finirai jamais Sons of Anarchy. Ça m'insupporte. Pourtant, je suis allé loin. Hein. Dans Sons of Anarchy, je suis allé jusqu'à saison 4 ou 5. Mais juste, c'est pas possible. Là, cette année, bah, là, il y a eu la réalisation d'il y a 5 minutes que je ne reprendrai pas Quantico. mais non, celle que j'ai où je me suis dit non, là, c'est bon, ça va. C'est Black Sails.
Donc, c'est genre les trucs que j'ai jamais vu, un seul épisode.
Moi, c'était sur ma liste à peut-être regarder.
Le premier épisode est fun, est plutôt pas mal, et après c'est un petit peu l'administration chez les pirates, la série.
D'accord.
Mais avec des gens à poil. Hein. Mais quand même, ça reste l'administration, donc.
C'est comme The Office en fait.
C'est ça, t'es The Office avec des gens tout nus et qui font. non, il y avait des trucs dans le premier épisode, il y avait des trucs très fun, très marrants, esthétiquement qui dénotaient des personnages qui étaient vraiment incarné d'un point de vue physique. L'ouverture est mortelle. Le générique, mais punaise, il est d'une telle beauté. La musique est excellente. En plus, pas de chance, je l'ai découvert sur grand écran à Cerimania, donc forcément, ça a un petit peu magnifié l'ensemble. Mais le générique est à tomber. Hein. C'est Bear McCreary, c'est une œuvre d'art. Par contre, tu dis un générique pareil pour une série comme ça, ça fait un peu chier. Et non, mais en fait, je pense qu'au bout du troisième ou quatrième épisode où je me suis endormi devant sans me dire, il faut que impérativement je revienne en arrière pour voir ce qui s'est passé. Mais plus, vraiment, si je le remets, je vais me rendormir encore. C'est bon, là, je crois que c'est la saison 3 ou quoi. J'arrive pas à aller plus loin que le début de la saison 2. Non, Black Sails, c'est fini pour moi.
Une autre truc dont tu te félicites d'avoir, que je félicite d'avoir arrêté.
Ça date déjà de l'année dernière, mais Gotham, ça fait du bien. je vous le conseille, hein. C'est un truc, c'est un petit peu comme enlever des chaussures trop petites. Ça fait un tel bien quand tu te réalises. Non, mais en fait, j'irai pas plus loin, c'est trop con.
En fait, c'est pour ça que je sais, parce qu'il y a vraiment un côté, des fois, tu dis, j'ai arrêté de regarder. Là. Alors qu'avant, il y avait tellement une boulimie des trucs, je veux regarder le plus possible. Enfin bon.
Et c'est surtout les conversations que t'as sur les gens qui regardent ce genre de série. Bon, je prends l'exemple de Gotham qui dit, non, mais l'épisode 12, la saison 2, il était pas mal. Et toi? Non, moi j'ai arrêté, hein, c'est bon. Être vaguement satisfait
aussi,
un épisode
entendu,
sur 12.
Moi j'ai entendu parler de l'épisode 12, mais d'ailleurs, c'est quand on avait parlé de Gotham la dernière fois, j'étais allée chercher un extrait. Et en regardant l'extrait, j'ai dit, putain, ça donne presque envie de regarder, saloperie. Je crois que c'est l'épisode 12 de la saison 2.
Mais l'idée de la série m'excite plus que la série en elle-même, en fait.
Ouais, bah, c'est souvent le cas.
Donc si je regarde une bande-annonce, je vais me dire, ah ouais, vas-y, tiens, puis je vais regarder les images. Non, c'est à chier.
Alors, moi, celle dont je me félicite depuis longtemps, c'est Quantico, parce que Quantico, c'est ça que j'ai pas précisé avant, parce que Quantico, moi j'ai vu le premier épisode, j'ai fait ah, puis après j'ai commencé à regarder le 2, et puis j'ai fait je vais faire un truc, je vais regarder une scène au hasard au milieu du 3, voir, et j'ai vu la scène, c'était la scène où du coup vous l'avez vu, au bout du 3 ou du 4,
je m'en souviens peut-être pas.
C'était quand tu te rends compte qu'elle a kidnappé la blonde et qu'elle l'a attachée dans un appart pour lui interroger et tout, et j'ai regardé ce truc là, j'ai fait non. En fait, vous savez quoi? Je vais faire un truc malin. Je vais pas du tout la regarder, celle-là.
Et cette si scène-là, jamais... tu me la ressors. Ça devrait être une scène forte dont tu te souviens parce qu'elle l'attache un des autres personnages principaux de la série. Celle qui jouait dans Unreal.
Ouais, c'est aussi. Ça.
Et en fait, j'y repense et je sais même plus pourquoi elle l'attache.
Mais ça n'a aucun sens.
Parce qu'elle était.
Non, et du coup, je
suspecte du moment où elle l'a.
Non, mais le truc, c'est que c'est le truc, quand tu sors du contexte une scène, et je me dis que, vu le nombre de séries que j'ai regardées, pour moi, j'ai un bon radar sur ce genre de truc. J'ai un bon, ce que j'appelle mon bullshit radar. C'est-à-dire que j'ai un bon radar, ou même sur un truc, et des fois, je me trompe, et c'est, heureusement, la communauté des séries fut là pour me dire, mais alors, d'où la félicitation, l'auto-félicitation de toute l'année, c'est que chaque fois que j'entends parler, j'étais là, moi j'ai arrêté avant vous. Et j'étais très fière. L'autre truc où je suis contente d'avoir arrêté, c'est Grimm, parce que on m'a raconté, en plus Marine regarde et tout, donc on m'a raconté machin et tout, et du coup je sais que heureusement, non, il n'avait pas détruit Juliette à tout jamais à la fin de la saison précédente, parce que c'était tellement misogyne et stupide la façon dont ils évacuaient le personnage. J'espérais bien qu'elle allait revenir. Elle est revenue. Elle est super powerful, badass, mais de ce que j'entends dire, elle sert pas à grand chose et personne ne fait grand chose avec. Et donc voilà. Mais par contre, je pense à lancer une série de petits podcasts bonus où je demande à mes amis de me raconter les trucs que je regarde plus. Genre en 10 minutes, genre bon alors c'est quoi les trucs dans ces maisons de Grimm. Et je me dis que ça peut être très drôle parce que des fois ça donne des conversations un peu loufoques.
Je demanderai à Léa ce qui se passe dans la dernière saison de The Walking Dead.
Voilà, c'est ça.
Il y a des morts vivants.
Il y a des vivants morts.
Non, et il y a Jeffrey Dean Morgan qui est le grand méchant.
Jeffrey Dean Morgan qui fait le grand méchant qui est déjà assez invivable dans le comics. Et il paraît que là ça rend très très bien et que ça rend juste Jeffrey Dean Morgan juste.
Et il arrive dans la toute fin du dernier épisode. Je sais parce que un de nos bonus de Cerimania, c'est une conversation avec Elodie qui a défendu la fin de la dernière saison de Walking Dead. Et c'était très, et elle parlait de Jeffrey Dean Morgan notamment. Et j'étais là, tu me donnes presque envie de regarder, mais je ne regarderai pas. Et non, et l'autre truc où je me félicite d'avoir arrêté, c'est The Grinder. Parce que en plus ils ont l'annulé, donc j'ai fait voilà. J'ai du coup après la dernière fois qu'on en a parlé dans le podcast, j'ai dit que je regarderais peut-être la fin et en fait j'ai arrêté et je m'en félicite parce qu'en fait j'en avais rien à carrer de cette série.
Well, if it isn't.
Sure. Ça c'était pour les aficionados. Ok, je voudrais terminer du coup parce que vu que maintenant on a libéré nos calendriers de séries, même si on est retardataire, du coup malgré vos retards quand même sur les séries que vous voulez finir, vous aurez une série que vous allez regarder parce que c'est l'été et que vous voulez faire un petit plaisir coupable, un truc qui va passer devant les autres. Voilà, c'était la réponse que j'attendais de ta part.
Alors en fait, je t'avoue que pour moi j'attendais Zoo avec beaucoup d'impatience parce que mine de rien j'avais...
Tu t'étais éclaté en regardant la saison 1.
J'étais éclatée avec la saison 1 où c'était juste... Ils avaient trouvé le bon équilibre entre le truc assez stupide et en même temps c'était relativement bien foutu, enfin ça fonctionnait.
C'était assez attachant en plus.
Ouais, ouais. Là j'ai vu les trois premiers puisque le premier épisode était double.
Moi j'ai vu le double premier épisode hier soir.
Bah, je t'avoue que je me fais un peu chier.
Moi aussi, mais par contre, le rhinocéros me fait beaucoup rire.
Non, mais après, il y avait un super bel éléphant. Enfin, j'étais ravie de voir un éléphant à l'écran.
Non, mais Zou, c'est juste... Mais c'est what the fuck, quoi. Tout le truc, t'es là. OK.
Bah, disons que c'est un épisode où... Enfin, une série où après le troisième ou le quatrième épisode, donc où j'étais seule chez moi à 2h du mat, où je me suis tournée vers mes chambres en disant... Heureusement que vous êtes gentils parce que sinon, vous dormiriez dehors.
Il y a quelque chose d'assez...
Donc voilà, Zoo était... donc je crois que je vais en rester en fait au... Entre guillemets, Zoo va rester un petit peu le... Il va encore avoir 2-3 épisodes, mais sinon on va revenir sur...
Toi, t'as un truc que tu vas regarder cet été juste parce que c'est l'été et qu'il faut bien se faire plaisir avec un truc à la con
Ouais, j'ai déjà plus ou moins commencé, mais je pense que je vais terminer. C'est un revisionnage en fait, c'est... Spaced.
Ah, voilà. Faut que je regarde.
Les premières œuvres à l'antenne du trio Peg Frost Wright. Donc, on fait Shaun of the Dead, qu'on fait Dernier Pub, Avant la fin du monde, c'est ça. Voilà, j'adore ce qu'ils font. Je suis aussi fan de la façon dont ils le font. On sent que c'est une œuvre qui vient du cœur et qui est voilà, c'est ancré dans une cinéphilie, une sériephilie. Revoir Spaced, c'est aussi revoir toutes les références qui sont à l'intérieur de la série, qui sont pas forcément toutes évidentes, mais qui sont présentes. Et c'est un vrai gros plaisir de replonger dedans.
Eh ben moi, Zou, enfin, on va voir si je tiens, parce que moi aussi, j'ai regardé les deux premiers avec plaisir, mais voilà. Sinon, je vais faire comme si j'avais pas 50 trucs à finir, et je vais regarder Dark Matter et Killjoys, parce que je m'étais bien éclatée à les regarder l'été dernier, et c'est bien, enfin, et c'est cool d'avoir de la vraie science-fiction qui se passe dans l'espace, qui prend ses thématiques et ses personnages au sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Donc voilà, bon. Donc, et puis personne n'avait interest, et The Good Wife, voilà quoi. Mais, ouais, mais ça, c'est des trucs.
C'est moi qui termine Kingdom, ce sera pas des plaisirs coupables.
Oui. Oh, encore un truc que j'ai jamais fait. Bon,
qui est très très bien, regardez.
Alors maintenant, je voudrais, parce que ce podcast n'est pas assez long, je voudrais inaugurer un truc que je veux faire depuis le début et qu'on oublie de faire à chaque fois et que je voudrais faire. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas prévenu, Léa, donc tu as un temps de réflexion, qui est l'obsession de la semaine, c'est-à-dire un petit truc c'est une recommandation pop culture qui peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une vidéo YouTube que vous venez de voir, ça peut être une chanson que vous êtes en train d'écouter, ça peut être un film que vous venez de voir, un trailer que vous venez de voir, tout et n'importe quoi. Tu as le droit de réfléchir longtemps.
Non, c'est bon,
j'ai marre. et du coup, qui est un truc dont vous voulez parler, voilà, l'obsession de la semaine pour vous.
Alors moi, c'est pas de cette semaine, ça date de la semaine dernière.
Mais vu la fréquence avec laquelle on fait le podcast, c'est pas grave.
On te rappelle dans un mois quand on le mettra en ligne.
C'est un film qui est sorti la semaine dernière où j'ai pour l'instant juste vu la bande-annonce que j'ai pas encore réussi à voir parce que bah, y avait d'autres qui risquaient de quitter l'affiche avant celui-ci. Donc un film cubain et irlandais qui se passe à La Havane, qui s'appelle Viva, donc sur un jeune homme qui... Alors, je n'ai vu que la bande-annonce, mais je trouve que la bande-annonce est extrêmement bien faite, mais donc qui cherche en tout cas à être drag queen. Donc je ne sais pas si le personnage lui-même est homo, si peut-être pas, mais je trouve que c'est un film qui a l'air juste absolument magnifique et donc voilà. Donc j'attends de le voir avec beaucoup d'impatience. Je trouve au-delà de ça que c'est une bande-annonce qui est extrêmement belle et extrêmement bien faite, ce qui est assez intéressant de noter parce que ces derniers temps on avait plutôt des bandes-annonces qui étaient très mauvaises. Donc voilà, le film s'appelle Viva. Qui est sorti le 6 juillet.
Donc c'est là ça date le podcast. Du coup, quand il va être mis en ligne le 15 septembre, ils vont dire ah ouais quand même les gars.
C'est pour que vous n'ayez plus aucune excuse.
De toute façon, maintenant toi tu es productrice du podcast, Léa, donc tu es autant responsable que nous de nos retards. Dom, toi, ton obsession de la semaine.
Alice isn't dead. Donc c'est un. Ça va surprendre pas grand monde qui écoute le podcast ou qui me connaissent un peu sur Twitter. Un podcast fictionnel qui est l'œuvre d'un des auteurs de Welcome to Night Vale, Jeffrey Craynor. On y retrouve la poésie de Welcome to Night Vale. On y retrouve des moments d'horreur et d'angoisse de Welcome to Night Vale. Un peu moins l'humour. C'est un road trip, voilà, d'une femme donc qui recherche Alice. On ne sait pas trop qui est Alice au départ pour elle. Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est son amie? On apprend au fil du temps qu'il s'agissait de sa compagne et qu'elle a disparu du jour au lendemain. Et en gros, elle est en train de remonter les indices pour la retrouver. Et pour ce faire, elle s'est fait embaucher comme camionneuse. Donc elle traverse les États-Unis dans son camion, elle rencontre des gens plutôt étranges, pour la plupart, vit des situations d'horreur traditionnelles assez terrifiantes par moments.
Est-il avec un grand sourire ?
Non, c'est vraiment très bon. C'est efficace, c'est poétique, c'est hyper bien produit. La musique et l'œuvre de la personne qui s'occupe aussi de la musique de Welcome to Night Vale, c'est le groupe, même si c'est qu'une seule personne, Disparition. La musique est à tomber raide, très influencée années 80 et en même temps très moderne. Enfin, c'est la voix de la narratrice, c'est Jessica Nicole, donc qui jouait. Ah non, mais c'était quoi son prénom dans Fringe?
Je ne sais point, car je n'ai pas vu Fringe. Alors attends. Fringe.
Astrid.
Ah.
Astrid. Et que John Noble renommait assez régulièrement, dont assez souvent Astro. Donc Jessica Nicole, qui est vraiment géniale là-dedans, et une empathie qui se crée tout de suite avec elle. Donc je conseille souvent Welcome to Night Vale, mais on en est déjà à épisode 75, je comprendrai que ça soit un peu insurmontable pour certaines personnes. Alice is Undead pour ces 10 épisodes par saison, donc là ils ont fini la saison 1, qui est définie comme étant un chapitre. C'est une production Audible, donc Audible qui est le site de
des audiobooks.
Donc c'est clairement traité comme un audiobooks mais augmenté, donc avec de la musique, avec de la mise en scène. Mais c'est traité de la même manière, c'est une écriture purement romancée. Donc voilà, je le conseille vraiment ardemment, c'est vraiment superbe. Enfin voilà, moi je suis très fan.
Eh ben écoute, encore plus de podcasts à écouter, vu que nos podcasts sont trop courts, hein, mais c'est pour... mon obsession de la semaine, c'est la chanson qui a été produite par l'organisme spontané qui s'est créé, qui s'appelle Broadway for Orlando, où c'est plein d'artistes de Broadway, mais qui en fait, comme on en parlera dans le futur podcast Hamiltonis, qui va durer, qui dure 4 heures, donc qui va être en partie diffusé dans l'été. La communauté de Broadway, c'est aussi la communauté des séries et la communauté du cinéma. En fait, il y a plein de gens qui sont dans plusieurs. Donc quand on regarde le clip, on voit qu'il y a plein de gens qu'on connaît d'autres trucs. Ils ont décidé de chanter, de se retrouver dans un studio et de chanter What the World Needs Now de Burt Bacharach. Un peu à la We Are the World, et en gros tout a été donné, le temps de studio, les musiciens, le temps des musiciens, des artistes, et aussi carrément le streaming sur iTunes. Et donc du coup elle est en vente sur iTunes, la chanson, et tous les bénéfices donc qui sont 100% en fait du chiffre d'affaires revient au centre GLBT, apparemment c'est s'appelle GLBT là-bas, de Floride, qui notamment s'occupe des frais médicaux de toutes les victimes d'Orlando qui n'avaient pas d'assurance ou qui ne sont pas assurées pour et qui doivent se faire soigner entre autres. Et donc c'est, et en fait, je trouve, alors déjà cette version est magnifique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement touchant dans la diversité du type de personnes qui est, parce qu'il y a Whoopi Goldberg, Kristen Bell, Idina Menzel, Zachary Levi, Matthew Broderick, Carole King, de Bernadette Peters, grande star de Broadway, Audra McDonald, bien sûr Lin-Manuel Miranda de Hamilton, mais enfin tout un tas de gens. Et il y a quelque chose de très fort à la fois dans l'idée, on sent que c'est des communautés qui sont proches les uns des autres, où tout le monde est, c'est pas qu'ils sont tous amis, mais il y a l'idée, on est comme une grande troupe d'artistes, que je trouve qu'elle a l'air plus forte là-bas que dans les autres communautés artistiques du monde. Je pense que c'est peut-être lié à la situation géographique, que quand les gens vont pour être artistes, ils vont à New York et à Los Angeles et ils quittent leur famille et c'est pas des centres, enfin je sais pas, il y a peut-être ça, mais aussi la qualité artisanale aussi de la juste, enfin tous ces gens qui chantent si bien, qui chantent tous ensemble, on a l'impression qu'il y a une compétence aussi artistique qui est toujours touchante. Et en plus ils en ont fait une autre version live dans l'émission à sketch de Maya Rudolph et Martin Short qui s'appelle Maya and Marley, où là c'est plus les mêmes gens qui chantent les mêmes parties de la chanson, enfin certaines oui, certaines d'autres, et ça montre aussi la flexibilité de cette communauté. Et donc à la fois la chanson est sublime, les images font pleurer, le texte est génial parce que c'est en gros juste une répétition que la seule chose dont le monde a besoin, c'est de l'amour et rien d'autre, et pas juste pour certains mais pour tout le monde. Donc le message est très clair, et en plus, enfin voilà, il y a tous les éléments derrière qui font que ça m'a énormément touchée. Je l'ai écouté 12 milliards de fois, je l'ai acheté bien sûr sur iTunes, et je vous conseille de faire de même. Et en plus, pour les nerds, celui qui l'a produit a fait une vidéo de 22 minutes où il déconstruit toute la chanson officielle, et non seulement il t'explique, il te dit les noms de tous les gens qui chantent, mais en plus il dit à chaque fois pourquoi c'est intéressant, comment la façon dont ils chantent leur phrase en dit long sur leur façon de chanter, sur qui ils sont, sur donc il y a un espèce de gros truc de nerd derrière. Avec, alors ce que j'adore, c'est que Carole King, la façon dont elle chante You, enfin il y a que Carole King qui chante You comme ça, non parce que tu vois tout le truc est comme ça. Et donc voilà, donc c'est un truc que je conseille à écouter, à voir, mais aussi ça fait réfléchir. C'est, j'aime l'idée de quand il se passe quelque chose de terrible, d'essayer de faire quelque chose de positif sous quelque forme que ce soit, et pas pour être grandiloquent ou pour faire le martyr, mais juste parce que faut compenser aussi la négativité. Enfin du coup tu disais Dom que parce que du coup dans les images, dans la deuxième version, celle de Maya et Marty, il y a des images de rassemblement dans le monde en soutien, et il y a le moment où j'avais pas vu parce que moi j'étais pas à Paris, où il y a le panneau de la mairie de Paris où c'est écrit en anglais « We stand together, we're thinking of you, Orlando, hashtag love wins ». J'étais là, ok. Et la tour Eiffel aux couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui est un truc quand même assez sublime. Et tu me disais que toi, tu avais regretté que...
Bah, moi, j'ai regretté que, étant donné que c'est arrivé en plein pendant l'euro en France, que l'UEFA ne décide pas de faire une minute de silence pour la tuerie. Les grandes instances footballistiques ont tendance à se mettre souvent unies autour de la lutte contre le racisme, parce que il est difficile dans le football de dire qu'il n'y a pas de noirs d'arabes qu'ils pratiquent. Par contre, il y a une forme de négation même du fait qu'il y a de l'homosexualité dans le sport, et que les homosexuels dans le sport sont condamnés à se taire parce que voilà, c'est très mal vu, ils vivent encore 100 ans en arrière, et le simple fait de se dire qu'ils sont pas capables de allez, on fait une minute de silence parce que c'est absolument immonde ce qui vient de se passer, et ça s'est passé pendant la compétition, donc il y aurait moyen de faire quelque chose de fort en montrant qu'on est tous unis derrière ça, même d'une corporation où tu te dis que ça pourrait pas venir forcément naturellement, ce genre de soutien. C'était le moment de le faire. Ils l'ont pas fait, mais ils sont tout petits.
Je me permets juste de soulever quand même qu'il y a aussi des attentats en Turquie qui ont été particulièrement meurtriers. La Turquie qui faisait partie de l'euro quand même.
C'est clair.
Et où on n'en a pas non plus parlé. Donc, bien sûr que au niveau du sport, il y a une homophobie qui est latente.
Oui.
Après, je crois que de toute façon, l'UEFA ne.
Oui, ils ont fait des. Ils ont fait des.
Oui, mais en tout cas pas pendant cette Coupe d'Europe-là. Ouais.
Ils ont fait une minute de silence. Je me souviens plus pour quel événement. Ils ont fait une minute de silence pour. Une minute d'applaudissement pour un truc qui s'était passé. Mais je sais pas, ça se passe pendant la compétition, ouais, c'est censé être un truc de, enfin ça a été vendu comme ça, comme étant même en France, hein, il y avait le côté aussi, il y a eu des attentats, l'année n'a pas été facile, ça va peut-être être l'occasion de faire la fête avec d'autres personnes, ouais. Et de, eh ben c'est le moment ou jamais, quoi, allons-y franchement, enfin la plupart des gens étaient là pour ça, étaient là pour passer des bons moments, s'amuser et partager avec les autres, ça doit aussi servir à ça, et ça a pas servi à ça, et c'est vraiment emmerdant, enfin moi ça m'emmerde.
En tant que fan de foot.
En tant que fan de foot, c'est un...
Non, parce que faut préciser aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr.
on est dans.
Non, puis en plus, enfin, je veux dire, si tu décortiques un petit peu ce qui s'est passé, il y a eu énormément de moments très émouvants pendant la compétition, venant de joueurs, des moments que tu soupçonnais pas vraiment, des trucs vraiment enfin, moi, personnellement, qui m'ont touché en tant qu'amateur de sport et juste en tant qu'amateur de destin humain.
À l'Islande, quoi, j'imagine.
L'Islande, mais même.
Je pense que ça a touché tout le monde, même les gens qui n'ont jamais regardé un match comme moi.
Premier match, mon plus beau souvenir de cet Euro-là, c'est le premier match de l'équipe de France. Dimitri Payet sort après avoir marqué un but et fait une passe décisive. Il est en larmes. Il est en larmes parce qu'il n'était pas censé partir à l'Euro parce qu'il se croyait mis de côté et il y a tout qui est remonté. Et ce mec est joueur professionnel qui normalement devrait être en béton armé face à ce genre de truc. Il sort, il est complètement en larmes parce qu'il y a le stade qui se lève, qui scande son nom. Et c'est pour ça que tu regardes ce genre de choses.
C'est presque envie de regarder.
C'est pour ça que tu devrais regarder ce genre de choses.
C'est
ça ce que devrait être. Mais tu vois, quand on parlait de l'Islande, moi c'est marrant parce que justement ce truc que l'Islande... Pourquoi est-ce qu'on parle de foot?
Mais on parle de foot pour de bonnes raisons.
Parce que à ce moment-ci du podcast, ces gens qui écoutent encore, c'est les vrais fans, et pour eux on peut parler n'importe quoi. Merci, on apprécie de votre
novembre en Angleterre, qu'il y a des supporters avant un match qui ont chanté la Marseillaise. Moi je suis désolé, je me dis oui, c'était, si je dois justifier à quelqu'un l'existence du football, c'est ça, quoi.
Mais tu vois, moi justement, moi qui ai toujours été anti-sport par exemple, parce que je trouve que
carrément,
non, anti-compétition, et le foot le résume d'autant plus parce que je trouve que ça fait monter toutes les animosités qui peut y avoir entre patrie, etc., alors qu'on essaye de former quelque chose. Et justement, j'ai vu l'année dernière un reportage, enfin un documentaire qui est passé au cinéma, qui est absolument génial, qui est La pire équipe, où il faudrait que je retrouve le nom exact, un documentaire qui suit l'équipe de Samoa.
D'accord.
Donc qui est vraiment la pire équipe du monde. C'est un jour vu quand même, lors d'un match contre l'Australie, c'est pris 31 buts, 0. Et donc, en fait, le documentaire par-delà, c'est comment est-ce qu'on peut faire... Et bon, le documentaire démarre sur ça, mais ensuite, ça vrille totalement sur, bah, notamment, la population transgenre en Polynésie et le statut qu'ils ont à part. Et puis là, d'un coup, tu te rends compte de ce que le foot et les équipes, les sports d'équipe, en tout cas... devrait être, et que c'est des gens qui ne sont pas professionnels mais qui sont là juste pour s'éclater, et ils se prennent 31 buts et en même temps ils continuent à aller s'entraîner le lendemain après leur journée de 18 heures de boulot. Et je me suis retrouvée à chialer devant ce documentaire, mais vraiment, et à me dire, mais c'est ça ce que le sport devrait être, et c'est ça ce que ça devrait représenter aux
Olympiques. Je pense que c'est ce que l'Islande a beaucoup représenté cette année.
L'Islande a exactement représenté ça, et il y avait quelque chose d'assez fantastique là-dedans.
Ouais. Je sais plus qui m'a dit, ouais, de toute façon, les Français, ils sont toujours en se plaindre, et là, sur France-Islande, ils sont du côté de l'Islande et tout. Je dis, oui, il y a beaucoup de gens qui sont du côté de l'Islande, mais c'est pas parce qu'ils veulent critiquer le truc, c'est parce que l'histoire est géniale. C'est parce que quelque part, il y a un truc symbolique hyper fort, de tout d'un coup, ces gens professionnels, mais non professionnels, qui tout d'un coup...
Non, puis franchement, là, cette année, contrairement à d'autres, autant parfois l'équipe de France a une image hautaine, désagréable et antipathique, autant cette année, c'était vraiment dans un excellent esprit, et ce que l'équipe a dégagé en tant que telle est vraiment positif, et du coup, se retrouver face à l'Islande, c'était moi personnellement j'étais derrière l'équipe de France à ce moment-là, mais j'étais tellement content pour l'Islande qu'ils aient fait ce qu'ils ont réalisé, parce que ça, enfin c'est juste, ça devrait pas arriver en fait. C'est des belles histoires aussi, ça.
Mais c'est comme après les Irlandais qui avaient un tel fair play par rapport à tout ça, que forcément tu peux que soutenir quelque part leur équipe, juste parce que eux-mêmes le sont.
Mais t'as envie qu'ils restent dans le pays, quoi. Non, ils ont été très cool. Après, je suis rentré avec un taxi il y a quelques jours, qui me disait, ouais, Les Irlandais, hein, tout le monde les trouvait cool et tout, hein, mais je vous assure, hein, une heure avec eux dans un taxi, t'as mal au crâne à la fin.
Après, moi, j'avoue que je ne suis pas du tout le sport, mais par contre, j'en ai tiré totalement profit en allant dans des salles désertes de cinéma. Donc,
bah, tu vois.
Vraiment, c'était juste le pied par rapport à ça.
Bah, c'est rigolo, parce que moi, j'étais à Avignon, et en fait, ma mère m'a dit, oh, personne parlera. Mais en fait, j'ai suivi, du coup, le seul moment où j'ai vraiment suivi ce qui s'est passé, c'était les dernières semaines, parce que les matchs étaient dans la rue.
Ouais, bah oui,
donc,
bien
du
sûr.
Coup, et j'étais en train de faire une interview d'une femme metteur en scène qui a fait un truc sur l'Argentine, sur les bébés volés argentins, un espèce de truc hyper glauque, mais hyper intéressant dans les années 70 et tout. Et elle m'expliquait sa mise en scène avec une triple narration. Et là, je crois que l'équipe de France a gagné. En fait, non, ils avaient juste évité un but. Non, c'était le dernier, c'était la finale, donc ils avaient évité juste un but, puis ils ont rien marqué du tout. Bon, alors sur ces bonnes conversations, nous sommes partis vraiment très très loin comme d'habitude, mais c'est pas grave. Mais oui, comme vous avez remarqué, j'ai subtilement changé le nom du podcast et j'ai appelé ça maintenant un podcast sur la pop culture et tout ce qu'elle nous inspire. Ça fait aussi partie de la pop culture.
Certes.
Mais vous inquiétez pas, on continuera à parler de séries. Et sinon, on voudrait vous remercier, vous, poditeurs, qui acceptez le fait que nos podcasts soient de à longueur variable, à publication variable. Et on vous remercie aussi quand vous parlez de nous et quand vous nous dites que vous avez aimé ce qu'on fait, c'est cool aussi. N'hésitez pas avec les questions, les commentaires, les emails et tout le reste. On remercie le Daily Mars qui continue à parler de nous aussi. Et surtout Yann et Guillaume qui sont en première ligne de ce soutien. Et on vous dit à bientôt, bonne série, bon film, bon foot d'ici là. Hein? Salut tout le monde. Nous avons deux super sagas pour l'été, la saga Star Wars qu'on a enregistrée en mars et la saga Hamilton que j'ai enregistrée début juin.
Il y aura quelques anachronismes,
mais c'est pas grave.
Ce qui est surprenant dans le podcast Star Wars, c'est qu'on dit qu'on attend vachement de regarder le 7.
Non, c'est un truc où on explique pourquoi nous on a adoré le 7 et on parle un peu de notre relation à Star Wars avec Sullivan Le Postec. Les Hamiltonises, on est 6 filles à parler de Hamilton et des Tonys, donc ça aussi ce sera en plusieurs bouts.
Donc précision, je ne suis pas dedans.
Ah oui.